à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En République centrafricaine, trois importants chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature, selon un décret présidentiel rendu public lundi. Le point avec Morgane Guiriec.
Ali Darassa, chef de l'UPC, Mahamat Al-Khatim, chef du MPC, et Bissidi Souleymane, alias Sidiki, chef du groupe armé Les Trois R, seront chargés auprès du Premier ministre Firmin Grébada de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix. D'autres chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux à la primature, dont Adama Chaibou du MPC, chargé des relations avec le monde arabe. Le décret présidentiel précise que ces conseillers ont rang et prérogatives de ministres délégués. L'annonce au début du mois d'un nouveau gouvernement centrafricain avait soulevé une vague de protestations des groupes armés qui contrôlent 80% du territoire. Vendredi, le président Faustin Touadéra a donc nommé une nouvelle équipe leur accordant plus de portefeuilles sans leur confier de ministère régalien. L'accord de Khartoum, signé le 6 février à Bangui, est le 8e depuis le début de la crise en 2013. Aucun des précédents accords n'a abouti à un retour de la stabilité. La présence de la MINUSCA, forte de 11 000 casques bleus, n'a pas réussi non plus à ramener une paix durable dans le pays.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka s'est rendu hier dans le village d'Ogassogou. Peuls dans le centre du pays, au moins 160 peuls ont été tués samedi dernier par des chasseurs Dogon présumés. Le président Ibeka a demandé au nouveau chef de l'armée de s'assurer qu'un tel drame ne se reproduit jamais plus dans le pays. Plus de détails avec Mamoudou Bokoum, notre correspondant à Mopti, le chef-lieu régional.
48 heures après l'attaque du village d'Ogassogou, le président de la République s'est rendu sur place. C'est un Ibeka en larmes qui a présenté les condoléances de la nation à la famille des victimes. Le chef de l'État assure que justice sera faite. C'est pourquoi il a lancé un message clair à la hiérarchie militaire. Plus jamais de tels actes sur le territoire malien. Parmi la délégation, il y avait les élus du cercle de Bankassa. Aruna Sangaré est le maire de Wenkuru.
Le président de la République l'a dit là-bas, qu'il invite la population à ne pas se venger, à pardonner. Que toutes les dispositions sont prises pour que les auteurs soient arrêtés et sanctionnés par la loi. Vous savez, il n'y a pas de paix sans justice.
L'attaque de Ogassogou a eu des conséquences au sein de l'armée et à la milice de Gondana Amasagou. Est-ce la solution? Voici la réponse de Oumar Tapo, leader de jeunes à Mopti.
C'est une décision qui a été prise en conseil des ministres. Si effectivement l'association Dana Amasagou a été créée sur des bases, une base juridique, c'est-à-dire une association légale en République du Mali qui a un récépissé, donc si l'association quitte les objectifs qu'elle s'est fixés, c'est normal que le gouvernement prenne une décision pour dissoudre cette association.
Et par rapport au changement à la tête de la hiérarchie militaire?
Bon, je crois que c'est un changement qui était nécessaire vu la situation dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui. On a besoin des hommes et des femmes capables de se déployer sur le terrain et surtout écouter ses subordonnés. Tout ce que les subordonnés leur disent, ils doivent écouter et travailler avec ça. Et ils doivent être accessibles à tout moment. Donc je crois que c'est des hommes et des femmes comme ça qu'on essaie de mettre au sommet maintenant de la hiérarchie militaire. L'alternative pour la paix au sein du Mali, moi je pense d'abord qu'il faut désarmer toutes les milices présentes au sein. Pas dans Amasagou seulement, toutes les milices. Tous ceux qui possèdent une arme qui n'est pas de l'armée régulière doivent être désarmés. On ne peut pas continuer dans cette anarchie. Tout le monde porte une arme, on ne sait pas qui est qui. Et chaque jour, c'est la désolation, c'est des villages qui sont dévastés, c'est des personnes innocentes qui sont tuées. Donc ça ne peut pas continuer, il est temps qu'on arrête ça.
Il faut rappeler que dans la même zone, il y a eu une attaque similaire à Koulogo qui a coûté la vie à une trentaine de personnes. Le dimanche 17 mars dernier, l'attaque du camp de Djoura dans le cercle de Tenenkou a fait plus de 20 militaires morts. Mamoudou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Mouvement de contestation en Algérie, le Front de Libération Nationale FNL, le parti du président Abdelaziz Bouteflika, a resserré les rangs lundi soir à l'issue d'une réunion de sa direction. Le porte-parole du parti, Hossine Khaldoun, a déclaré que la proposition de sortie de crise préconisée par le chef de l'État est la meilleure et que le FLN est opposé à toute vacance au sommet de l'État. Confronté à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, le président Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat le 18 avril et reporté sine die le scrutin présidentiel en promettant de remettre ses pouvoirs à un successeur élu au terme d'une conférence nationale chargée notamment d'élaborer une nouvelle constitution. Mais l'opposition et la société civile ont unanimement rejeté ce plan en soulignant qu'il permettait au chef de l'État de se maintenir au pouvoir sans élection au-delà de l'expiration constitutionnelle de son mandat le 28 avril. Rappelons que dimanche dernier, Ossine Kaldun avait publiquement jugé inutile le plan de conférence nationale unanimement rejeté par la population et proposé d'élire un nouveau chef de l'État dès maintenant, avait-il précisé. Algérie toujours, Toufik Keladi, directeur général de la télévision nationale, a été limogé hier. Les journalistes du service public contestent la censure dans la couverture des manifestations réclamant le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les raisons du limogeage de Toufik Keladi n'ont pas été précisées. En poste depuis 2012, après avoir dirigé la radio nationale, il faisait face depuis près d'un mois à une fronde de ses employés. Comme leurs collègues de la radio nationale, les salariés de la télévision publique dénoncent des pressions de la hiérarchie qui les a contraints à passer sous silence les manifestations ou d'en parler en adoucissant les exigences de la rue. Hier, plusieurs dizaines de salariés de la télévision nationale ont manifesté à Alger. « Y en a marre de la censure », ont-ils scandé, en réclamant une télévision libre et démocratique. Depuis le début des manifs, le 22 février, une rédactrice en chef de la radio nationale et une présentatrice du journal de la télévision publique ont claqué la porte. Outre les défilés monstres chaque vendredi, les avocats, architectes, vétérinaires, employés communaux et des magistrats de la Cour des comptes ont manifesté hier à Alger. Et de nouveaux rassemblements étudiants sont attendus ce mardi à travers tout le pays.
Les séquelles du cyclone Idai en Afrique australe, des milliers de rescapés toujours isolés 10 jours après le passage meurtrier du cyclone Idai au Mozambique, vont pouvoir enfin recevoir nourriture, tentes et médicaments grâce à la réouverture d'axes routiers clés essentiels dans un pays désormais menacé par des épidémies de maladies véhiculées par l'eau. De vraies bombes à retardement, selon la Croix-Rouge. Le cyclone qui a provoqué de fortes inondations et des éboulements de terrain et pris de court les autorités responsables de l'envoi des secours a fait plus de 700 morts au Mozambique, pays le plus touché, et au Zimbabwe voisin. Ce bilan est susceptible de grimper au fur et à mesure que nous atteignons des régions isolées, a prévenu le ministre mozambicain de l'Environnement, Celso Correa, chargé de la coordination des secours. Actualité aux États-Unis, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a coupé court à sa visite à Washington après une attaque à la roquette contre son pays à partir de la bande de Gaza. Le chef du gouvernement de l'État hébreu a reçu du président américain Donald Trump lundi un gros cadeau préélectoral. La signature en sa présence par le président Trump d'un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan, territoire syrien occupé depuis plus de 50 ans par l'État hébreu. Réaction de la Russie, Moscou craint une nouvelle vague de tensions au Proche-Orient après cette reconnaissance formelle par Washington de la souveraineté d'Israël sur la partie occupée et annexée du plateau du Golan. Eric Manirakiza.
Selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, la décision du président Trump conduit à une violation grossière du droit international, entrave la résolution de la crise syrienne et aggrave la situation dans tout le Proche-Orient. De son côté, le gouvernement syrien a qualifié de violente attaque contre l'intégrité de son territoire. Monsieur Trump n'a pas le droit ni l'autorité légale pour légitimer l'occupation israélienne, a ajouté le ministère des Affaires étrangères syrien. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël ne renoncerait jamais à la majeure partie du Golan conquis par l'État hébreu lors de la guerre des six jours en 1967 avant de l'annexer en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Monsieur Netanyahou a remercié chaleureusement et à plusieurs reprises le locataire de la Maison-Blanche. À 15 jours d'élections législatives dans l'État hébreu, la proximité entre les deux hommes était visible hier jusque dans la tenue vestimentaire identique.
Et pour terminer, le Pentagone a annoncé lundi avoir débloqué $1 milliard pour la construction d'une section du mur frontalier voulu par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.